De retrouver l'actualité du cinéma avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous.
Vous avez une belle mine, Laurent.
Vous aussi, vous êtes beau.
Merci, merci. J'aime bien commencer l'émission comme ça.
Ah, quelques petits compliments.
Ah bah ça oui, ça fait du bien. Parce que c'est toujours le même qui est accueilli par une haie d'honneur de toutes ses fans, mais pas nous. Alors on est un peu en manque de temps en temps, Laurent.
On va manquer d'amour, oui.
Oui, c'est ça.
Le cruel.
Oui, oui.
Celui, il y a l'amour celui, des auditeurs.
Mais oui, celui dont on parle, il est là, il est avec nous, c'est Guillaume Sidom, oui. Lui et les auditrices. Ah, le vénère. Dites-nous, Laurent Martin, combien de films allez-vous nous proposer à regarder à la télé ce soir?
On peut passer une bonne soirée devant son écran, chez soi, oui. À la télévision, à condition de l'allumer, bien sûr.
Oui, évidemment.
Dans ces cas-là, il y a un petit conseil de films. Voilà, 4 films pour le cinéma, à la télévision, cette semaine, de quoi passer une bonne soirée. Et un petit conseil musical.
Voilà, oui. Nous attendons avec impatience ce moment où nous allons chanter avec vous, Laurent. Vous avez entendu sa voix et vous avez entendu les cris. Les cris, mais oui, il faut dire ça comme ça, de cette cohorte d'admiratrices qui vous attend, hein. Guillaume Sidom. Comment allez-vous ?
Eh bien, ça va bien. Bonsoir les maris, bonsoir à tous et à toutes. Et à propos de cinéma à la télé, eh bien, je vais vous conseiller ce soir un film qui passe dimanche soir sur France 2 à 21h10. Je peux y aller, peut-être ?
Oui, mais faites comme vous voulez, hein, vous êtes ici.
C'est une émission.
Comédie jubilatoire portée par un casting 5 étoiles signé d'un réalisateur français dont le film est à l'affiche actuellement dans vos salles obscures.
Le nouveau
film, exactement.
Oui, il est bon de le signaler.
L'excellent, très bon nouveau film.
Ouais. Mais dites-nous.
Ce n'est pas un étranger pour nous. Un petit indice.
Oui, c'est ça. Vous êtes très très fort, Laurent Martin, ce soir, comme d'habitude. Pour des problèmes techniques, notre ami Grégory Combe ne sera pas avec nous ce soir. Nous n'avons pu avoir à temps son petit billet d'humeur qu'il allait consacrer à une série française qu'on peut voir sur Netflix. Nero, mais attendez la semaine prochaine, peut-être bien que à ce moment-là, tout se passera bien dans l'acheminement du courrier. Ensuite, dans le panier de l'ouvreuse, il y aura quoi ? Eh bien, il y aura la fiche de la semaine, Laurent, que vous allez scruter avec l'ouvreuse, bien sûr. Et puis, il y aura des reprises sur le grand écran et sur le petit, vous venez de nous en parler. Et comme le veut l'habitude dans l'émission, l'ouvreuse veut vous conseiller des films, des manifestations, voire des expositions que vous alliez voir, justement, de notre part. Et puis, ce soir, nous avons une invitée de marque, en la personne de Jo Loubet. Bonsoir Jo.
Bonsoir.
Jo, vous êtes la directrice artistique du Festival International du Film de Muret qui souffle ses 13 bougies et on commencera à les souffler le dimanche 9 novembre.
Exactement.
Et on pourra reprendre son souffle pendant la semaine pour arriver à souffler toutes les bougies au 16.
Le 16
au soir. Un beau programme en perspective que vous nous proposez là. Je me suis perdu un peu dans mes notes, je ne sais plus où j'en suis. Toujours est-il que vous proposez, oui, le thème c'est l'altérité, le vivre ensemble.
Oui.
Un beau programme que voilà.
Dont on a bien besoin.
Vaste programme.
Oui. Et alors, ce thème, vous l'avez dès avant de recevoir les films ou c'est à mesure que vous recevez les films et que vous les sélectionnez que vous pensez au thème que vous allez développer dans votre édition ?
Eh bien, c'est très curieux parce que c'est un thème auquel on est très attaché et on se rend compte que la plupart des réalisateurs sont aussi attachés à ces thématiques de altérité, vivre ensemble, de bienveillance, d'être avec les autres, d'humanisme. Toutes ces valeurs-là, très souvent, les créateurs en cinéma, les réalisateurs portent ces valeurs-là. Donc on se rejoint en fait.
Ah ben ça c'est une bonne idée. Et quand même, je le disais, pour une semaine complète, vous proposez 50 films.
Oui.
52 même.
C'est une belle performance. Il a tout compté, il a repassé le programme.
Oui, oui, oui.
Il a compté deux fois.
Et 46 en avant-première.
Oui.
C'est notre comptable aussi. Ça demande beaucoup de travail pour réunir tout ça.
Oui, ça demande beaucoup de travail. On est une petite équipe, un comité finalement de sélection qui est une petite équipe. Bon, on commence à travailler après le festival de Cannes et puis La Rochelle. Et puis on visionne beaucoup de films. On a visionné en tout près de 200 films. Entre quelques films qu'on a éliminés parce qu'ils seront déjà sortis et on ne le savait pas.
Oui.
Et puis d'autres qui nous ont peut-être moins intéressés, moins plu. Disons que ce qu'on essaie de faire, c'est de faire avancer nos coups de cœur. On se dit que nos coups de cœur, les uns, les autres, ce sera peut-être bien les coups de cœur du public aussi. C'est un peu comme ça qu'on fait la sélection.
Et le public, à ce propos, peut voter pour un film et lui attribuer le prix du public.
Tout à fait. C'est nouveau cette année. On a eu tellement de réclamations l'an dernier disant « Ah, mais nous, en dehors des jurés, on peut pas, les jurys décident et nous, on peut pas faire un prix. » Et nous, on a voulu... Alors, il y a beaucoup de gens qui... On voulait donner le prix à Enfants Phares parce que c'était les films qu'on a le plus aimés. Bon. Alors, on a dit « Bon, on va les satisfaire. Cette année, il y a un prix du public. »
Ah, alors vous facilitez pas la tâche parce que sur votre bulletin pour voter il y aura 6 notes, ça fait beaucoup. Hein.
Ah oui. alors cette année c'est un coup d'essai, on va voir comment ça va se passer.
Et, parce que si on compte, hein, je vérifie à propos de tous les festivals, la façon dont votent les publics, c'est très très variable. L'échelle de notes peut être grande ou étendue ou pas.
Oui.
Voilà. Alors je sais pas, vous nous direz quel problème vous avez été confronté quand vous avez dû dépouiller les votes.
Voilà, pour l'instant c'est un essai cette année, donc on va voir.
Alors, dans la programmation, on l'a dit, concernant l'altérité et le vivre ensemble, il y a des films de fiction, bien sûr, puis il y a des documentaires, parce que vous balayez tous les genres cinématographiques.
Oui.
Ça fait... C'est assez extraordinaire, ça. Comment n'avez-vous pas décidé un jour de vous focaliser sur un thème ou un genre?
Parce qu'on estime que le documentaire a aussi ses lettres de noblesse. Qui a, je pense, dans mon esprit, au film de Raoul Peck, là, Orwell.
Oui.
Je trouve que le Orwell 2+2=5 est un film tellement extraordinaire qui nous a absolument séduit, épaté, étonné. Et ce travail sur la fin de vie d'Orwell que fait Raoul Peck et sur, il revient sur les différentes adaptations de 1984, c'est vraiment, et puis ça fait tellement écho à des choses qui s'empressent de nous montrer aussi à des choses d'aujourd'hui, à des situations d'aujourd'hui, à des personnes d'aujourd'hui, des personnalités, je n'en citerai aucune, mais bon, il y a forcément des courts-circuits qui se passent, et son film est formidable, il y a des phrases qui sortent du livre 1984, qui sont d'une actualité absolument brûlante.
Avec la voix de Vincent Lindon.
Oui.
Les documentaires, je le disais, et il y a aussi d'autres rubriques, mais... Vous restez avec nous jusqu'à 20h, on va prendre le temps de regarder en détail ce que vous proposez au Festival International du film de Muret. C'est bon à préciser, ça signifie que les films viennent de tous les pays du monde.
Ah oui, tous les pays du monde, on s'était amusé à faire une carte, et puis en gros, il y a l'Afrique, il y a le Japon, il y a un peu, enfin, disons, et l'Europe est très représentée, mais un peu tous les pays d'Europe sont représentés, voilà, c'est... L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne.
Ce sont des cinématographies qu'on connaît bien ici.
Oui.
Il y en a d'autres en Asie aussi. Les Japonais, on les connaît. Moins l'Afrique, qui produit moins aussi. Mais
c'est vrai.
On sait pourquoi aussi. L'Amérique du Sud qui a des problèmes. Mais enfin, bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là tout de suite. En tout cas, maintenant, ce que je vous propose, c'est essayer de deviner le film là que nous allons projeter tout de suite.
Ton avenir.
Maintenant.
Il est chargé. 6 balles en titane et un chargeur en plus en cas de nécessité.
Je comprends pas, là.
Derrière toi, il y a une table de 3 personnes. Une femme en robe orange et 2 hommes en costume clair. L'un est garde du corps, l'autre est un homme important. Il faut l'abattre. 2 balles, minimum. Quand tu as fini, tu descends dans les toilettes des hommes. Dans la dernière cabine, il y a une petite fenêtre où seule une femme peut passer. Tu tomberas dans une cour intérieure. Il y a ensuite un grand couloir qui t'emmène dans la rue. Une voiture t'y attend depuis environ 2 minutes. Il t'en reste encore 3.
Ça fait pas beaucoup pour accomplir sa tâche. Est-ce que vous avez reconnu cet homme qui se prénomme Bob et il a affaire à qui? À qui parle-t-il?
Anne Pario dans Nikita.
C'est Nikita, il parle à Nikita. Et cet homme, Bob, c'est Checky Cario.
Ah oui.
Et Checky Cario, on voulait lui faire un petit clin d'œil. C'est la moindre des choses. Il a fait souvent les méchants, hein, très souvent.
Oui.
Il a marqué le cinéma français, le cinéma international aussi, parce qu'il a fait une très belle carrière. Souvent par les seconds rôles qu'il avait, et souvent des personnages dont on n'avait pas envie d'être l'ami. Hein. En tout cas, il faisait tout pour arriver à ne pas être votre ami. Hein.
Il n'aimait pas les ours. On l'avait découvert dans L'Ours.
Oui. Vous disiez, Jean-Louis.
Moi, je disais qu'il est souvent aussi des personnages mystérieux. Des personnages dont on ne sait pas trop s'ils sont bons, méchants. Enfin, il maintenait cette espèce d'ambiguïté sur le personnage avant qu'on avance dans l'histoire pour savoir de quel côté il était, mais... On ne savait pas trop,
c'est vrai,
bien,
ouais.
Souvent.
C'était mystérieux comme ça, oui.
Alors, ce qu'on sait peu, c'est qu'il était avant tout, et pour commencer, un acteur de théâtre. Hein, il a commencé sur les planches et il a intégré aussi, après avoir fait partie de différentes troupes parisiennes, il a intégré la prestigieuse troupe du TNS, du Théâtre National de Strasbourg. C'est quand même ça fait partie des centres d'art dramatique les plus hauts. Au degré le plus haut en France. Vous le disiez, Laurent, c'est L'Ours qui l'a révélé, le film de Jean-Jacques Hano, et c'est ce qui a amené Luc Besson à lui proposer le rôle de Bob, oui, dans Nikita qu'on vient d'entendre. Sinon, après, je disais que sa notoriété traverse l'Atlantique, rappelez-vous, il est aux côtés de Gérard Depardieu dans le Christophe Colomb de Ridley Scott. Et oui, comme il fait le méchant dans le premier Bad Boys face à Will Smith et Martin Lawrence. Et encore, bien d'autres encore. Tiens, il est l'officier français qui donne un coup de main à Mel Gibson dans The Patriot aussi.
Et il joue dans GoldenEye.
Et oui, là aussi. Donc il a fait aussi plein de choses. Mmh. Et il avait encore des projets sur la table, si on peut dire ça comme ça, et malheureusement la maladie l'a emporté. Et ce qu'on sait peu aussi, c'est qu'il aimait la musique. Il aimait la musique au point d'en faire et même de monter sur scène avec différents groupes. Alors laissez-moi retrouver. Je crois qu'il était monté en scène avec un groupe français, ça me reviendra, forcément un groupe français, mais en tout cas, là, il a réalisé deux albums, dont un qui s'intitule « Je vais retrouver mes notes », il s'intitule « Ce lien qui nous unit », c'est en 2006, son dernier album, et dans cet album, il y a « Elle se balance » que je vous propose d'écouter, hein, tout de suite.
Au bout des doigts.
J'ai mis un peu d'ordre dans mes notes et j'ai retrouvé le clip musical auquel il a participé. Eh ben, c'est L'avenir est à nous avec Kool Shen. Kool Shen, une moitié de NTM. Eh oui. Et puis, il est aussi monté sur scène avec Blancas. Ça, c'est dans un autre genre.
Et le nom de son groupe, c'est Les Bienveillants.
Oui, Les Bienveillantes. Voilà, en tout cas, c'était le petit clin d'œil qu'on voulait faire à Cheikh Icario. Et on revient à vous, Jouloubé, et au Festival de Muret, qui propose cette année, dans cette programmation consacrée à l'altérité, au vivre ensemble, des documentaires, on vient d'en parler, mais vous avez créé des sections.
Oui.
On peut dire ça comme ça.
Voilà.
Et elles n'ont pas toutes le même nombre de films.
Non, parce que ça dépend du nombre de films qui peut être inclus dans cette variété. Mais on a trouvé l'an dernier déjà que de les regrouper sur une thématique, gestes d'artistes, ou bien les jeunes révoltés jeunes. Quelque part, on étiquetait un peu les films. On aidait un peu le spectateur à se retrouver dans cette énorme quantité de films, à trouver des chemins qui lui conviendront et qui lui seront propres.
Alors vous avez trouvé cette année un réalisateur pour être le parrain de cette 13e édition qui colle parfaitement au thème que vous avez proposé, c'est Michel Faucon.
Alors Philippe Faucon était...
Pourquoi j'ai mis Michel, donc, Philippe
Michel. Peu importe. Philippe Faucon donc, sera là avec une bonne partie de sa filmographie et nous aurons le plaisir de l'accueillir. Il a fait deux films sur la guerre d'Algérie, de façon avec des points de vue très différents et très variés. Il a fait un très beau film, Fatima.
César du meilleur film en 2016.
Ouais. Oui. Qui nous parle d'une dame qui ne sait pas lire et écrire et qui a deux grandes filles et qui vit seule et qui, bien sûr, fait des petits boulots et elle veut que ses filles réussissent. Et c'est compliqué au niveau familial.
Avec toujours la question de l'exil, la transmission, la double culture, l'intégration,
voilà.
Tout ça, tous ces thèmes qui reviennent.
Alors, c'est des thèmes, il n'est pas le seul, mais c'est propre à lui. Et on le retrouve dans aussi Amine, la double culture.
Les Harkis aussi, non ?
Les Harkis aussi. Mais dans Amine, on retrouve cette même histoire, à savoir que quand on est migrant, pour nous, le migrant, c'est le gars qui arrive chez nous, quoi, point barre. On oublie que derrière, il a tout un passé, une famille. Et là, Amine, il a une famille au Sénégal, il a une femme qu'il aime, il a deux enfants. Et c'est lui, ce qui travaille, son boulot pénible qu'il fait dans le bâtiment, c'est pour nourrir sa famille. Et puis, il a droit aussi, en France, à avoir une vie, peut-être une vie sentimentale, et ça va être tout ça très compliqué.
Eh bien, le moment est venu pour nous de voir un deuxième film. Mais alors, avant de voir le film, ce qui convient de faire, c'est ce qu'on faisait à l'époque, à cette belle époque où il y avait un film de première partie, puis des dessins animés, puis les actualités avant l'entracte et avant le deuxième film. Ce que je vous propose, c'est de passer directement aux actualités.
Verdier, jeune actrice sans le sou, aurait tué à bout portant le grand producteur Monsieur Montferrand. Encore une fois, il s'agit d'une femme.
Le parquet est rempli de crimes non élucidés. Et il m'aura suffi d'un seul interrogatoire pour découvrir la coupable.
Je confirme le crime de ma cliente, mais je confirme aussi son innocence.
Quand ils connaîtront les détails de son crime, ma petite Madeleine, ils t'admireront.
Alors, est-ce qu'on va l'admirer, cette Madeleine ? Coupable ou non coupable, Guillaume Sidom ?
Eh bien, on va avoir la réponse pour Mon Crime, film de François Ozon, sorti sur vos écrans en 2023, casting 5 étoiles, je vais y revenir. Musique signée Philippe Rombi, que vous entendrez à la fin de ma chronique. Mon Crime, librement adapté d'une pièce de théâtre de 1934, écrite, elle, par Georges Bert et Louis Verneuil, Ozon. Vous le savez, c'est souvent inspiré du théâtre pour ses films. Il aime le côté outré, caricatural des personnages, limite artificielle des décors, des costumes. On se souvient évidemment de 8 femmes, un huis clos coloré et musical, adapté façon Agatha Christie, puis Potiche avec Catherine Deneuve, en épouse modèle des années 70, prenant le pouvoir dans l'usine de son mari. Le film repose, lui, sur un duo féminin et porte en triomphe l'entraide à une période où les femmes ont bien des devoirs et très peu de droits. Il est donc question de la place des femmes en 1935, mais tout nous parle de 2025. Et sur le ton de la comédie, Mon Crime est donc le troisième volet d'une trilogie commencée donc avec 8 femmes. qui nous parle du renoncement du patriarcat, puis Potiche, qui traite, lui, de l'avènement du matriarcat, et voici la sororité avec mon crime. Les questions développées par les personnages féminins dans le film perdurent jusqu'à aujourd'hui. Ces deux filles deviennent féministes presque à leur insu, grâce notamment à leur intelligence et leur débrouille, pour s'en sortir dans une société qui ne les gâte pas et qui les emprisonne dans des rôles. Il raconte donc l'histoire de Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, accusée à tort d'avoir tué un influent producteur de théâtre, Montferrand. Vous l'avez entendu en introduction, aidée de sa meilleure amie et colocataire Pauline, jeune avocate au chômage. Elle décide donc de plaider la légitime défense et l'affaire devient donc un symbole de l'oppression des femmes par les hommes. Acquittée par un jury entièrement masculin, Madeleine devient une célèbre actrice dont la vie est faite de gloire et de succès jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Le film est réjouissant, la reconstitution du Paris des années folles est superbe, les dialogues sont vifs, enlevés et osons, leur donne une touche tout à fait contemporaine et nouvelle qui résonne vraiment avec l'actualité. En même temps, eh bien, il s'amuse à reprendre tous les codes des comédies hollywoodiennes des années 30, vous savez, les fameuses Scribbles Comedy signées Lubitsch, Capra, Hawks. Au début du film, les deux filles, les deux amies, vont d'ailleurs au cinéma voir Mauvaise Graine de Billy Wilder avec Daniel Darieux, jeune, ce qui est un double clin d'œil et hommage, puisque c'est elle aussi qui joue la grand-mère dans 8 femmes, la boucle est donc bouclée.
Et l'on retrouve dans le film d'autres thèmes chers à François Ozon.
Oui, il a une filmographie assez éclectique, hein, en termes de genre, des comédies, des thrillers, des films d'époque, mais peut-être parmi leurs points communs, il y a un goût d'Ozon pour sonder les ambiguïtés de l'âme humaine et pour interroger les frontières du bien et du mal. André Dussolier se pose la question avec angoisse dans le film. Et les femmes sont ici effectivement de beaux personnages solidaires, mais aussi un brin calculatrice, voire manipulatrice.
Ouais, c'est un casting 5 étoiles quand même, ce film-là. Enfin, au générique de ce film, il y a 3 actrices formidables.
Oui, d'abord les deux jeunes qui montent à la sortie du film en 2023, Rebecca Marder et Nadia Tereshkevich, qui sont absolument parfaites. Elles sont parfaitement complémentaires et irrésistibles. Et puis face à elles, Isabelle Huppert, qui joue une ancienne star du muet, qui vient, elle, revendiquer sa part de gloire. Les trois sont très drôles et les seconds rôles sont aussi jubilatoires. Fabrice Luchini en inspecteur misogyne, clone de Louis Jouvet, et des plus petits rôles tenus par Daniel Prévost. Michel Faux, Myriam Boyer, tous sont excellents. Nous ne boudons pas notre plaisir devant ce divertissement de haute volée du grand cinéma populaire, divertissant et intelligent. À retrouver ce dimanche 8 novembre, 21h10 sur France 2. Il est dit en clair, et en Blu-ray et DVD chez Gaumont. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Dans ce casting incroyable dont vous avez parlé à l'instant, pour Mon Crime de François Ozon, vous avez oublié Danny Boone, irrésistible en architecte marseillais. Danny Boone qui parle avec l'accent marseillais, c'est assez exceptionnel. La musique donc est signée Philippe Rombi et c'est celle qui nous accompagne. «
vache brebis quand j'ai demandé.
Ça c'est pour vous, Joloubet. Dans quel film on peut entendre cette chanson? C'est compliqué. Hein. C'est une question difficile. Eh oui, c'est dans une voiture qui monte à Paris avec une famille qui va manifester et dont le fils va se retrouver handicapé à vie par un tir de flashball. C'est dans le film de Dominique Moll, Dossier 137, et qui fait l'ouverture de votre festival.
C'est ça. Alors, Dossier 137, c'est la police des polices, en fait. C'est la police des polices qui va enquêter sur cet incident, grave incident, pendant
une des manifestations.
Et donc, cette enquêtrice va chercher absolument à confronter différents témoignages pour obtenir la vérité et enfin voir s'il y a un coupable et quel il est, etc. Et c'est toute la démarche du film que je ne vous raconte pas.
C'est vraiment très très bien amené, très très bien monté, bien fichu et porté par Léa Drucker qui est extraordinaire.
Voilà, Léa Drucker est une magnifique comédienne qui, dans chaque rôle, que ce soit un rôle même comique ou même léger, elle est toujours excellente, elle est toujours à la hauteur de la situation et là elle l'est.
Laurent.
Oui, Marie.
Sur Zaï Zaï Zaï.
Oui.
Est-ce que vous nous feriez les films de la semaine avec l'ouvreuse?
Si je dis non, qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois qu'on fait ça sur Jourdassin. Bon. L'inconnu de la Grande Arche à l'affiche cette semaine, le nouveau film de Stéphane de Moustier avec Claes Bang, Swann Harlow, Xavier Dolan et Michel Faux. Rappelez-vous, en 1982, François Mitterrand lance un concours d'architecture anonyme sans précédent pour la construction d'un édifice emblématique dans l'axe du Louvre et de l'Arc de Triomphe. Et à la surprise générale, c'est un architecte danois de 53 ans, inconnu en France, qui l'emporte. Et du jour au lendemain, donc, Johan Otto von Spreckelsen est propulsé à la tête du plus grand chantier de l'époque. Et s'il entend bâtir sa grande arche telle qu'il l'a imaginée, ses idées vont très vite se heurter à la complexité du réel, aux aléas de la politique et bien sûr à la bureaucratie française. Alors un gros cube transpercé de vide, dans lequel se lie la perspective parisienne très napoléonienne qui passe par l'Arc de Triomphe et regarde l'obélisque et la place de la Concorde, donc ce gros cube que vous retrouvez dans le quartier des affaires de la Défense, c'est tout à la fois donc l'œuvre de son créateur, ce fameux inconnu danois de 53 ans, donc on l'a dit, qui n'avait jamais construit à part sa maison et quatre églises, comme il dit, donc c'était vraiment un débutant, et puis son instigateur, bien sûr, le président François Mitterrand, lors de son premier septennat. Stéphane de Moustier, le réalisateur de Borgo, joue de ce constant rapport de force entre les êtres et les choses. C'est la partie un peu comique de l'affaire. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs Michel Faux en Mitterrand, un peu précieux, ridicule, comme ça, avancé, telle une marionnette qui tire néanmoins les ficelles. Au pied du chantier titanesque, il y a donc ce Van Preckelsen, incarné par l'acteur Dana Klaas Bang, qui a appris le français d'ailleurs pour le film. Cet architecte qui va se dresser donc devant lui les moulins à vent d'une réalité politico économique française, peu soluble bien sûr avec son exigence d'artiste, il est plutôt aérien, il est plutôt dans les étoiles. Les monuments ont forcément des choses à nous dire sur le monde et les hommes qui les ont vus naître, à l'instar de Brutaliste, rappelez-vous, avec Adrien Brody qui est sorti il y a quelques mois. On voyait Brady Corbett se mettre au diapason de son héros angoissé pour sortir de terre et matérialiser un gigantesque trauma. Stéphane de Moustier ici, certes, est plus en retenue, mais il braque sa caméra sur cet inconnu, donc soucieux de dompter le vide et de rester dans l'histoire, de laisser sa trace dans l'histoire. Louis-Marie, vous avez rencontré le réalisateur Stéphane de Moustier,
oui,
qui est le frère d'Anaïs de Moustier.
Oui, oui, ils sont nombreux. Ils sont quatre, je crois, et ils ont une autre sœur qui est productrice, elle. Mais bon, ce qui nous intéresse, en fait, c'est Stéphane de Moustier, qui s'avère être un formidable réalisateur. C'est son quatrième film, et il rate jamais la marche, c'est le cas de le dire. Oui. Avec le cube, faire de cette histoire un thriller, c'est assez extraordinaire. Alors, pour pouvoir construire, bâtir son scénario, il s'est inspiré d'un livre signé Laurence Cosset.
La Grande Arche.
Et donc, à ça, toute la construction, tout ce qu'on voit de la construction, c'est la réalité. Après, ce qui tourne autour du personnage de Spreckelsen, de sa femme, de tout ce qui se passe aussi avec d'autres, ces moments un peu intermédiaires, tout ça relève de l'imaginaire, de la fiction. Et voilà comment il s'en est sorti avec ça, Stéphane de Moustier.
La partie prise, c'était de dire tout ce qui a trait au chantier, Et tout ce qui a trait au soubresaut politique relatif à ce chantier est avéré. D'ailleurs, il y a beaucoup de verbatims de Mitterrand qui sont ses véritables verbatims. Et on avait une documentation assez riche, la première documentation étant reprise dans le livre de Laurence Cossé que j'ai adapté, sur la réalité de ce chantier. En revanche, tout ce qui concerne la vie privée des protagonistes, et en particulier Sprechelsen et son épouse, est totalement inventé. Parce qu'on n'avait rien, et puis parce que c'était ça aussi le geste de ce film, c'est de se figurer comment cet homme a traversé intimement aussi cet épisode qui est inouï. Il était prof à Copenhague, il avait plus de 50 ans, puis s'est retrouvé à la tête de ce qui était le plus gros chantier de l'époque.
Et oui, à la tête du plus gros chantier de l'époque, alors comme vous l'avez dit, il avait juste à son actif 4 églises et sa propre demeure. Il enseignait l'architecture, hein, vous l'avez entendu. Il savait faire quand même, et il était toujours obnubilé par ses formes. Et on voit le côté intransigeant de l'artiste. C'est un geste créatif, et à partir du moment où il crée quelque chose, il ne faut pas que quelque chose puisse l'en empêcher. C'est ça. Et la difficulté, c'est de se soumettre aux règles à la fois de la construction, mais aussi aux règles politiques. Et là, à ce moment-là, on voit ce qui peut se passer. Il est complètement en dehors. Il est granitique, le personnage lui-même est bousculé. Encore faut-il pouvoir bousculer un bloc de granit, mais on y arrive. Et Claes Bang, l'acteur qui l'interprète, est proprement extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que quand on est dehors, quand on va sur les Champs-Élysées, c'est l'affiche du film d'ailleurs, quand on voit Claes Bang avec Michel Faux, c'est-à-dire Sprechelsen et François Mitterrand, cette scène s'est vraiment passée. C'est-à-dire qu'ils étaient tous les deux au milieu des Champs-Élysées parce que Mitterrand voulait voir quel effet ça ferait quand ça serait construit. Parce que là, ça ne l'était pas encore, mais on avait mis à la place où ça allait se construire une grande grue qui simulait le haut du bâtiment qui allait être là. Et pour voir quel effet ça faisait dans la perspective de l'Arc de Triomphe. Et les deux sont là, et Mitterrand échappe à ses gardes du corps, et les voilà tous les deux au milieu des Champs-Élysées, avec les voitures qui passent autour d'eux, et à regarder cette grue lointaine. Et on est dans ce Paris des années 80, et comment Stéphane de Moustier a-t-il réussi à le recréer à l'écran? Je vous propose d'écouter.
Il y avait deux défis, il y avait l'époque et puis il y avait surtout le chantier. Il y a eu un gros travail qui a été fait entre la personne en charge de l'image, la personne en charge de la décoration et puis celle qui fait les effets spéciaux. On a travaillé ensemble et à un moment on est arrivé à la conclusion qu'on n'avait pas les moyens de reconstruire un chantier aussi grand. On n'avait pas les moyens en effets spéciaux de tout refabriquer digitalement, on n'était pas un blockbuster. L'idée et qui fonctionne et qui est assez miraculeuse, c'est qu'on s'est dit on va partir de photographies existantes parce que ce chantier a été abondamment médiatisé, documenté puisque c'était un chantier phare. Donc on est parti de photographies existantes en se disant voilà, cette photographie c'est un plan qui m'intéresse. Et on a animé la photographie, c'est-à-dire qu'on a mis nos personnages dans la photographie et tous les petits trucs qui bougent, ça a été fait en animation, image par image. Mais la base, elle est totalement réelle, la base c'est une photographie préexistante, elle n'est pas fabriquée. Et ça, c'était l'idée gagnante. Et après, pour les plans serrés, on a uniquement fabriqué ce qu'il y a juste derrière chaque protagoniste. Et voilà.
Et voilà. Et c'est ça, c'est la magie du cinéma, et on y est, on est dans le Paris des années 80, on est sur ce chantier, on voit François Mitterrand qui vérifie si le marbre ne va pas glisser quand il est mouillé. Ouais, c'est ça, on voit tout ça.
Le port du casque est obligatoire.
Hein. Ah oui.
C'est très intéressant ce qu'il raconte là sur ces photos animées et tout.
C'est passionnant. Ouais. Et surtout parce qu'il manquait d'argent.
Oui, enfin, les moyens du bord, mais la technologie d'aujourd'hui permet des choses incroyables.
C'est extraordinaire. Et alors, là aussi, tout à l'heure, Guillaume parlait d'un casting 5 étoiles pour Mon Crime. Pour ce film aussi, c'est un casting 5 étoiles. Parce que, entre Claes Bang, qui est extraordinaire, hein, on l'avait vu dans The Square. The Square. Ouais. Et sa femme est incarnée, alors je vais écorcher son nom, évidemment, par Sidse Babette Knudsen, qu'on connaît bien, hein, qui a joué dans des...
Dans Borgen.
Oui, dans
la série danoise.
La série danoise, c'est ce qu'il a révélé au public français. Puis, il y a quand même Xavier Dolan.
Xavier Dolan. Canadien, acteur aussi.
Qui joue le rôle de de Subilon, qui est le conseiller présidentiel, toujours dépassé par les intrigues du pouvoir. Et puis il y a un autre architecte qui va être le maître des travaux, parce que le seul architecte ce sera Claes Bang. Ça, c'est reconnu. Il est incarné par Swan Arlo. Et il y a quelques plans où on les voit tous les trois ensemble. Dolan petit entre un Swan Arlo moyen et un gigantesque Claes Bang. Ça fait partie aussi du film qui est franchement une très très belle réussite et probablement le film de la semaine. Et je ne mâche pas mes mots et je ne me tords pas la langue. Ça s'appelle L'Inconnu de la Grande Arche.
Oui, un film bien construit. Petite revue de presse sur ces films. Il y a des films qui parviennent à vous passionner pour des sujets qui ne vous intéressent pas. C'est vrai, ça peut être le cas. Et L'Inconnu de la Grande Arche entre dans cette catégorie de façon flamboyante, selon 20 minutes. Tout est passionnant dans cette comédie tragique, selon Lacroix. Même les héros qu'on aimait. De Moustier signe une comédie dramatique sarcastique entre satire politique et portrait d'artiste solitaire et obsessionnel. À l'affiche aussi, cette semaine, on peut voir Les Braises de Thomas Krutoff avec Virginie Efira et Harry Vortelter. Histoire de Karine et Jimmy. Elle travaille dans une usine. Lui, il est chauffeur routier, et ils vont être pris dans le mouvement des gilets jaunes. Donc on reste presque aux Champs-Élysées. Hein. C'est le sujet de mercredi, finalement, les manifestations. Et Louis-Marie, vous avez mis votre plus beau gilet jaune, et vous avez rencontré le réalisateur.
Thomas Krutoff, pour Les Braises, oui. On rejoint un peu le sujet du film de Dominique Moll, mais là, on est du point de vue des manifestants et en fait d'une prise de conscience politique. Et c'est ça que veut montrer Thomas Krutoff dans son film, une mère de famille, un couple, parce que le film d'ailleurs, le film commence comme ça. Hein. On voit une étreinte entre deux personnes, c'est un couple aussi. Et puis après, ils sont en train de refaire l'intérieur de leur maison. Et petit à petit, on voit, c'est le moment des gilets jaunes. Au début, on va occuper des ronds-points et Karine va être emporté par ce militantisme et ça va mettre à mal son couple. Je vous propose d'écouter Thomas Krutoff qui parle justement du passage à l'engagement militant.
Après, il faut qu'un couple puisse s'adapter au changement. C'est vrai que là, le passage à l'engagement militant, sa découverte de l'engagement collectif, en tout cas pour le personnage de Virginie Efira, c'est finalement quelque chose que le mari accueille sans méfiance au début, et puis en limite peut-être en l'encourageant, tout en étant un peu étranger. Et puis, ça prend une place de plus en plus grande dans sa vie à elle, et donc dans leur vie. Et puis après, il y avait cette particularité des Gilets jaunes. C'est un mouvement qui a quelque chose de spontané, qui a initié beaucoup de gens à la politique, comme notre personnage, qui fait qu'on a aussi choisi de parler des Gilets jaunes pour ces spécificités-là.
On voit donc comment ce film, Les Braises, alors on peut voir Les Braises comme un feu qui s'éteint, ou alors le prémisse du renouveau d'un feu. C'est à vous de voir, oui. Vous le découvrirez quand, et vous vous en donnerez une explication après avoir vu le film, vous ferez votre idée. Mais en tout cas, le film montre comment la foi en un changement possible peut sublimer ou fragiliser les liens personnels. Alors c'est Virginie Efira et Harry Vortelter qui incarnent le couple. Ils sont justes, tous les deux. Et tous les deux montrent une intensité rare. Et Krutoff, lui, filme plutôt avec pudeur et humanité la beauté et la dureté du réel. C'est la première œuvre de fiction sur le mouvement des Gilets jaunes, hein, oui. du point de vue des Gilets jaunes, bien sûr, et qui regarde le film regarde la France, hein, c'est une des plutôt de ses réussites, même si on pourra en discuter quand même, sans condescendance. On voit les gens qui ont pris oui. cette conscience politique et qui veulent manifester. Voilà pour Les Braises.
À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Baroudeur du Christ, un film documentaire de Damien Boyer. 5 prêtres français sont envoyés à vie dans des pays d'Asie qui n'ont pas choisi pour y vivre une mission radicale et solitaire. Héritiers de 360 ans de tradition missionnaire, ils mêlent foi et action dans des engagements extrêmes. Ça peut être l'accueil de réfugiés nord-coréens, l'accompagnement de jeunes handicapés, la lutte contre l'exploitation. Voilà. Ces baroudeurs incarnent une génération renouvelée de missionnaires qui n'a qu'un message, dire aux oubliés combien ils sont aimés. On les croyait disparus, les missionnaires, mais pourtant ils sont là, besaces et bibles en main, si j'ose dire. Une nouvelle génération de missionnaires perdure insoupçonnée. Après le succès de son précédent film Sacerdoce, qui a réuni plus de 100 000 spectateurs quand même, qui a été élu meilleur documentaire de l'année sur Allociné, Madame Imboyer s'initie un nouveau regard audacieux sur des vocations encore méconnues, poursuivant son engagement à raconter des parcours de foi inspirant et profondément humain. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir T'as pas changé de Jérôme Commander au VO de Muret, par exemple. On peut le voir chez vous, Jo. On peut voir Deux procureurs de Sergueï Lonitsa au Régent à Saint-Gaudens et à la BC Toulouse. On peut voir La vague de Sébastien Léliot à l'Utopia Toulouse, Bordeaux Rouge. Predator Badlands de Dan Trachtenberg, le film d'action de la semaine au CGR Blagnac. On peut voir Imago de Demi Ouslar-Pitaïev à l'American Cosmographe. Soundtrack to a coup d'état de Johan Grimont-Prez à l'American Cosmographe. On peut voir France, une histoire d'amour, un documentaire de Yann Asturz Bertrand et Michael Pitiot au Grand Palais à Cahors. On peut voir des films d'animation Duel à Monte Carlo del Norte de Bill Plinton. J'ai bien dit Plinton, pas l'amateur de cigares, l'autre. qu'on peut voir ça au American Cosmographe. Et pour finir, chers amis, Guillaume, dès 6 ans, dessin animé, Le Roi des Rois de Sion Ojang, qu'on peut voir au CGR Tarbes ou CGR Montauban.
Ce titre, on peut l'entendre dans Predator Badlands. Êtes-vous surpris? Sûrement pas, parce que avec ce qui s'y passe, non, ça convient tout à fait. Par contre, ce que vous ignorez, c'est que ce groupe, The U, ça s'écrit H-U, et ben c'est un groupe de métal mongol. Et oui, ça existe. Ils viennent de Oulan-Bator.
La capitale
de la Mongolie. Et il y a donc à la fois des musiques traditionnelles, des instruments traditionnels, des instruments propres au métal, au heavy metal. Et puis il y a aussi leur langue. C'est You, H-U, c'est le mot racine pour mongol, pour dans la langue mongole, pour humain, c'est ce qu'ils sont. Intéressant à découvrir.
Ah oui, c'est bon, original, oui.
Allez voir le film que pour ça, il vaut mieux les écouter plutôt.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
Proviamo, via. Su, che facile. Con il sinistro, bimbe innamorate, gli aranci comprate. Hanno un magico sapore.
E voi ci andate spesso a ballare?
Mai!
E allora perché vi state imparando la rumba?
Così.
Ne prenda che sognate. Prendete il mondo, ma il non lo
On préférait la rumba ou le bruit des pas sur le parquet, sur le sol, n'est-ce pas, Joloubé? Vous connaissez bien le film? Non? Ça vous dit rien, cette rumba sur le parquet? Marcello Mastroianni et Sofia Loren.
Ah oui.
Sur une terrasse.
Ah oui.
Une journée particulière.
Oui, oui.
Une
ah, oui.
journée particulière.
C'est vrai.
Le film ressort dans une version restaurée qu'on va bientôt pouvoir voir chez vous, mais en
oui.
attendant, au VO de Muret, en attendant, on peut le voir à l'American Cosmograph, ce film de 77, extraordinaire. Au départ, Ettore Scola ne voulait pas de Sofia Loren parce qu'elle correspondait pas au personnage et parce qu'elle avait toujours eu des rôles où elle mettait en avant sa superbe, et là elle est pas à son avantage, hein, en mère de famille en chaussons et mal fagotée.
Mais finalement, il a fait un bon choix.
Ah oui,
elle est magnifique.
Elle est extraordinaire. Ouais. Une mère de famille mise à l'écart. Bah c'est comme ça, hein, oui. l'Italie fasciste. Et l'autre, bah c'est un homosexuel qui a rien à faire à la fête qui se déroule au moment où ils sont tous les deux esselés dans l'immeuble où ils vivent, parce que bah il se trouve qu'Hitler vient rendre visite à Mussolini. On est en 38 et l'Axe-Rome Berlin naissait. Et, la femme, elle était bonne pour faire des enfants et s'occuper du foyer même quand il n'était pas là. Et l'homosexuel, lui, il finira en prison, évidemment. Marcello Mastroianni, Sofia Loren, à l'American Cosmograph. Sinon, rapidement, vous irez voir Inception en VO, lundi 10 novembre à 21h au Pâté la Beige. Et puis, vous verrez la première partie de Dune de Denis Villeneuve après-demain, vendredi 7 novembre à 19h en VO au cinéma Pathé Wilson, et vous attendrez le vendredi suivant, c'est-à-dire le 14 novembre, pour voir la deuxième partie du film de Villeneuve. Et puis une chose encore à propos de la Cinémathèque, la Galaxie Jaoui avec Ma vie, ma gueule, le dernier film d'Hélène Filière, un très beau film que ses enfants ont terminé et porté par Agnès Jaoui. D'ailleurs, la photo qu'on voit qui est le comment dire l'accroche de la Galaxie Jaoui, c'est une photo de ce film. Et sinon, remake à La Chienne de Maurice Renoir, extraordinaire. Et puis pour une poignée de dollars, parce que la semaine dernière on parlait de Yojimbo, l'original. Voilà le remake.
Ouais.
Le remake pour une poignée de dollars d'Ennio Morricone. Laurent, c'est à vous.
Sergio Leone.
Sergio Leone. Ce soir, j'ai du mal avec les noms des réalisateurs. Vous avez raison. Sergio Leone réalise, Ennio Morricone compose la musique.
Oui.
Bon, Laurent.
Le ciné à la télévision, ça commence dès ce soir sur Arte à 20h55 avec Les âmes sœurs d'André Téchiné, avec Benjamin Voisin et Noémie Merlant. Au Mali, une explosion déchire le quotidien des soldats français. Et parmi eux, David, un lieutenant aguerri qui est grièvement blessé. Il rapatrie en urgence vers la France dans un hôpital, mais son passé s'est effacé. Alors même si la mise en scène est moins brillante que par le passé, le réalisateur sait toujours décrire la subtilité des sentiments complexes à découvrir et à revoir. Vendredi sur France 5 à 21h, ce sera l'atelier de Laurent Canté avec Marina Foyce, histoire d'Olivia, une romancière parisienne en quête d'inspiration qui anime un atelier d'écriture pour un groupe de jeunes en marge. Et leur mission, écrire à plusieurs mains un roman noir, miroir de leur colère et de leur désillusion. On connaît Laurent Canté, hein, qui a déjà montré son talent pour diriger et filmer des groupes de jeunes. On se rappelle dans Entre les murs, Palme d'or à Cannes en 2008. Il donne vie ici à des personnalités vives et différentes, comme il sait si bien le faire. Samedi 21h, France 4, pour jeter un œil sur Logan Lucky de Steven Soderbergh avec Adam Driver. Ensemble, les frères Logan ébauchent un plan aussi fou que risqué, cambrioler le coffre-fort du circuit de Charlotte, là où se déroulent les fameuses courses mythiques de NASCAR, un lieu blindé et sécurisé. Un film plein d'humour, un film de casse, hein, comme on les connaît, à la distribution prestigieuse, et qui remplit bien son rôle de divertissement. Lundi, France 3, 21h, ce sera un grand classique. Le clan des Siciliens d'Henri Verneuil, alors là vous sortez les cadeaux. Alors là, Gabin, Delon, Ventura, je le dis souvent, mais des acteurs comme ça, on n'en a plus, hein, profitez-en. Avec le soutien du clan des Siciliens que domine le patriarche Vittorio Manalese, le braqueur Rocher Sarté s'évade lors de son transfert à Fresnes, pour que Fresnes le freine, mais c'est pas le cas. Et le commissaire Le Goff se lance à ses trousses. Voilà trois têtes d'affiche qui servent magnifiquement cette mécanique policière impeccable. Un modèle du genre, le conseil musical, ça sera la BO de Pulp Fiction, Quentin Tarantino 94, Palme d'Or. Il n'y a que des pépites dans cette
Travolta, Matterman.
Dans ce film. Vous retrouvez Neil Diamond, Erge Overkill, Al Green, Cool in the Gang. Enfin bon. Vous trouvez ce CD pour quelques euros sur les sites très connus, hein, les sites Vinted, Le Bon Coin, mais surtout pas Chine. Voilà, pour le cinéma de cette semaine.
Vous ne me l'offrez pas?
Non. Je vous l'offre, mais il est d'occasion, c'est mon exemplaire.
Elle était murée, la fenêtre. Elle était murée, la fenêtre. Et c'est le sale mère.
Tu sors demain. Alors tu te calmes, merde. On est obligé de faire ce genre d'exercice avant de sortir un élément du centre. Et ce soir, et toutes ces années, tu vas me manquer.
C'est la dernière fois que je t'embrasse.
Une ellipse depuis le début que vous avez entendu en début d'émission. Elle est restée seule dans le restaurant, Nikita. Elle devait flinguer deux bonhommes et s'enfuir par la petite fenêtre qui était dans les toilettes des hommes. Et vous l'avez entendu, la petite fenêtre, elle était murée. Ce qui provoque chez elle, et au moment où elle doit s'enfuir, quelques difficultés pour échapper à la mort. Et on comprend pourquoi elle est un peu agacée quand elle retrouve Bob.
Et oui, elle s'est fait piéger, mais ça en est bien sorti.
Et oui, heureusement. Heureusement. C'est la fin de Nikita. La fin de Nikita du film, mais pas du personnage. Revenons à Murée, si vous voulez bien, Jo. Parlez-nous donc. On a parlé des documentaires et alors maintenant, j'ai compté les sections, les thèmes ou les thématiques plutôt. Il y a Écoute la nature, geste d'artiste, jeune révolté et espoir, ou jeune révolte plutôt et espoir, liberté en question, mémoire et famille. C'est large comme programme. Hein.
C'est très large et je pense à j'ai eu quelques pensées pendant ce que vous avez, quand vous avez parlé de L'inconnu de la Grande Arche, j'ai pensé à un film qui peut faire écho à ça, à savoir l'exigence de l'artiste qui va jusqu'à ne pas s'engager dans un travail pour pouvoir être disponible et libre totalement dans ce qu'il va faire de son écriture. Je pense au film qui s'appelle À pied d'œuvre, qui est un magnifique film de Valérie Donzelli et qui montre son exigence profonde. Il va faire des petits jobs, jobbing. Il va travailler sur des petits boulots. Peu importe qu'il soit opprimé, finalement, qu'il soit maltraité et mal payé. Ce qu'il veut, c'est sa liberté et de ne pas dépendre d'un patron, d'un chef, etc. On rejoint un peu l'inconnu. Et vous avez cité tout à l'heure Swann Arlo.
Oui.
Et je pensais à Swann Arlo parce qu'on le retrouve chez nous dans deux films du festival pour montrer le talent de Swann Arlo.
Ouais, très bon acteur.
Il est formidable.
Voilà, il est formidable. Dans La Condition, il joue le rôle d'un mari qui a une femme qui ne veut pas être mère et qui n'envisage pas du tout le film de Jérôme Bonnel, ce film de Jérôme Bonnel, d'attendre un enfant. Donc, ce qui le rend très malheureux. Et l'histoire va évoluer de façon très inattendue et très surprenante. Et il incarne cet homme un peu guindé, un peu coincé dans sa fonction et son rôle. Et on va le revoir dans un deuxième film qui n'a absolument rien à voir, qui est le film de Vladimir de Fontenay qui s'appelle Suckwan Island. Alors là, pour le coup, c'est un film très physique, puisqu'il part avec son fils, dont il a été séparé pendant des années, adolescent, dans une île isolée au large de l'Alaska, donc où le climat va être terrible, et ils vont y passer une année ensemble. Oui. Et c'est un film assez extraordinaire dans le physique, si je veux dire.
C'est tiré du roman de David Vann.
Oui, c'est ça.
Très bon roman.
Et c'est excellent roman, ouais. Et le film est excellent. Et donc je pense à ça parce que tout à l'heure j'y ai pensé pendant que vous parliez. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films et beaucoup de thématiques. Et moi, un film qui me tient à cœur, c'est Animal Totem. Je trouve qu'on va recevoir Benoît de Lépine samedi soir. Et Animal Totem nous renvoie vraiment à cet homme qui est là, qui traverse. C'est un des pilier de tout scénario, bon scénario, part d'un homme dont on ne sait pas ce qu'il vient faire. Il traverse des espaces. Où va-t-il? Que fait-il? Pourquoi est-il là? Quel est son projet? Voilà. Animal Totem, c'est ça. Il est arrivé, c'est Samir Ghazmi, il est arrivé à l'aéroport de Beauvais. Il va traverser jusqu'à la Défense. qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait, on
avec
sait
pas.
Avec
une mystérieuse mission.
Ouais. Voilà, mission mystérieuse. Et c'est un film qui est un film de cinéma, qu'il faut voir sur un cinéma pour l'immensité des paysages et pour la petitesse, petite taille de l'humain au milieu. C'est absolument magnifique et j'ai hâte de recevoir Benoît Delépine pour en parler avec lui.
On pourrait vous écouter des heures encore, Jean Loubet, mais nous arrivons à la fin de l'émission et il ne reste qu'une chose à faire à nos auditeurs, c'est de rejoindre le VO de Muret à partir de dimanche prochain. Oui. Nous serons le 9 novembre et jusqu'au 16 novembre, vous les accueillerez avec Philippe Faucon en parrain. Hein, c'est comme ça qu'on dit.
Oui, tout à fait.
Merci, Jo. Et il y a un jury jeune public et un jury moins jeune public. Voilà. Messieurs, quels sont vos coups de cœur ?
Les coups de cœur, ce sera pour L'Inconnu de la Grande Arche, Les Braises et puis Les Prédators.
L'Inconnu de la Grande Arche, duel à Monte Carlo del Norte, le Festival International du Film de Muret jusqu'au 16 novembre. Toutes les infos sur festivaldufilmdemuret.fr et puis... Mon crime, dimanche soir, France 2, 21h10.
Pour moi, ça sera L'Inconnu de la Grande Arche, de Stéphane de Moustier. Duel à Monte Carlo del Norte, de Bill Plimpton, complètement barré, le film. Et puis, évidemment, on fonce à Muret au Festival International, oui, du 9, dimanche 9, au 16. Oui. Et pour se dire au revoir, on écoute un brin de la BO du Roi des Rois quand Charles Dickens raconte l'histoire de Jésus à son fils. Merci, Jean Loubet. Merci, messieurs.
Merci. Merci à vous.
À mercredi.
Radio Présence publie chaque année sa grille des programmes. Demandez-la en appelant le 05 62 48 63 00.